L'écho,
l'écho.
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 Des conférences.
L'écho des conférences, l'émission qui vous permet d'assister aux conférences des rencontres Concertina, comme si vous y étiez.
Nous sommes le 2 juillet, c'est la première journée de cette édition de Concertina, les rencontres estivales autour des enfermements. Alors ce matin, le rendez-vous était fixé à l'église Saint-Pierre, au bout de la rue des Prisons, à Dieulfi, comme quoi ça ne s'invente pas. Nous y retrouvons Bernard Delpal, qui est historien et conseiller à la communauté de communes de Dieulfi. Alors Bernard Delpal soutient Concertina depuis la première édition, et l'une des raisons qui peut l'expliquer, c'est qu'il s'est déjà longuement penché sur l'histoire de l'enfermement à Dieulfi et aux alentours. J'ai donc choisi deux extraits de sa conférence. Le premier, c'est l'événement historique autour duquel Bernard Delpal a centré son intervention, à savoir la résistance qu'a rencontrée Napoléon Bonaparte lors de son coup d'État de 1851.
Ce coup d'État provoque une réaction populaire assez forte dans nos régions, c'est-à-dire que depuis Dieulfi, Marsanne, des groupes spontanément, dans la nuit du 5 au 6 décembre, se forment sans qu'on ait de mot d'ordre bien défini. Il crie, il y a « Vive la République, vive la liberté », mais qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Est-ce qu'il y a un projet politique? Non. Il y a une réaction spontanée et on dit on va à Cray, on va délivrer nos... Alors on ne dit pas nos camarades, on va délivrer les victimes de la répression, le fait qu'il n'y ait plus de liberté, si vous voulez. Hein.
Répression?
Oui, c'est ça, c'est une répression. Le département, depuis le mois de mai 1849, est privé de toute liberté. Pour un oui, pour un non, on est enfermé. Et au fond, ça rejoint une des démonstrations de Michel Foucault, un de ses ouvrages les plus célèbres, même si un certain nombre d'historiens l'ont remis en cause 20 ans plus tard, « Surveiller et punir ». Si vous voulez, l'idée, c'était qu'il fallait faire un dressage. Quand le peuple se trompe, eh bien, on va dresser le peuple. Certains disent on va changer le peuple. Eh bien oui, là, il y a un véritable dressage. On va vous faire aimer Louis-Napoléon Bonaparte. On va vous faire admettre le coup d'État pour votre bien. Donc, c'est l'État de siège. C'est ça que je cherchais. L'État de siège avait énormément renforcé les pouvoirs de coercition et de surveillance. Et le préfet, le 27 novembre 1851, envoie un télégramme ainsi formulé « Toutes les précautions sont prises pour écarter l'insurrection partout où elle pourrait se montrer. » Et c'est l'accumulation de ces télégrammes qui a encouragé le président de la République à ce coup d'État. Et malgré l'assurance du préfet, au cours de la journée du 6 décembre, les premiers rassemblements se forment autour de Montélimar, puis ensuite dans la haute vallée de la Gervanne. La Gervanne est un affluent du département de la Drôme. Nous nous rapprochons de Cray et du Diois, bastion, forteresse protestante. Et le scénario est toujours à peu près le même. On sonne le tocsin, le tambour retentit, les gens s'interpellent. Et on se rend dans les lieux publics, en général le café, aux prises de parole. Il faut alerter les communes voisines, et peu à peu, on se regroupe. Peu à peu, ces émeutiers, comme disent les gendarmes, s'approchent de Cray, et ils se rassemblent au moment où le préfet alerte les autorités militaires. Il y a un commandant militaire, le général Lapenne à Valence, qui ordonne aux troupes de Montélimar de barrer la route aux insurgés. Il y a à l'époque, Montélimar est à l'époque une sous-préfecture, dans une sous-préfecture, il y a une caserne au moins, Et c'est la caserne de Montélimar, le 13e et le 6e de ligne, s'organisent pour barrer la route aux émeutiers. La dispersion autour de Montélimar est faite au matin du 7 décembre, tandis que ceux qui n'ont pas été arrêtés par les troupes de Montélimar continuent à progresser vers Cray. Et le maire de Cray, lui aussi, envoie un message ainsi formulé. Il est aujourd'hui démontré que la grande trame démagogique avait l'horrible et monstrueuse ambition d'étendre ses infernales racines sur la terre entière. Ils avaient choisi ma malheureuse ville pour allumer l'incendie qui devait éclairer le monde. Le résultat a été de réunir autour de notre malheureuse ville des bandes armées dont le nombre est effrayant. Il n'est pas douteux aujourd'hui que leur nombre dépassait 4000 hommes. Nous avons été assez heureux, monsieur le préfet, pour disperser, éloigner de nous pour le moment, ces hordes barbares, mais elles sont loin d'être détruites. Alors, dans ce message du maire de Cray, Moutier, un catholique d'ailleurs, on trouve tous les éléments de la répression. Hein. Les hordes, les émeutiers, ce sont des bandits. C'est pas de la politique, ça relève du droit commun. Alors que dans la même ville de Cray, nous disposons d'un rapport du commandant de la gendarmerie, et comparer les deux permet de ramener à sa juste proportion l'émeute de Cray. Voilà ce qu'il écrit le 9 décembre. Je disposais d'un détachement de 10 hommes. J'ai vu 300 à 400 individus, hommes et femmes, certains armés de fusils, portant des cravates et des rubans rouges. Nous avons parlementé avec eux. Quelques-uns ont déclaré qu'ils voulaient seulement venir à Cray pour délivrer les prisonniers que nous avions faits. Sur ce, le commandement se retire, avec ses 10 hommes, faire le passage vers la ville en barricadant le pont. Et les émeutiers refluent. Vous voyez, il n'y a pas eu de massacre. Le 7 au soir, le général Lapenne envoie au commandement militaire de Lyon un rapport où il assure que le 7 décembre au soir, la situation est bien en main. Les insurgés sont battus partout, à Cray, à Sauzet. Le calme est revenu, la population de Cray s'est d'ailleurs vigoureusement opposée aux menées des émeutiers et des barbares. Ils sont tous en fuite et repartis dans leur virage.
Passons maintenant au second extrait, dans lequel on va retrouver les empreintes, les traces, qui subsistent encore aujourd'hui après le recours à la répression et à l'enfermement. Bernard Delpalle revient sur les vestiges carcéraux qu'on peut trouver du côté de Cray et de Lyon.
Lorsque l'on chemine de Dieulefi à Poët-Laval et puis en direction de Montélimar, on passe devant un bâtiment très important à la limite de Poët-Laval et de Dieulefi, qui s'appelle la Grande Cheminée, qui est une poterie ancienne, bâtie au début du XIXe siècle et puis étendue au cours du XIXe siècle. Et elle est munie d'une très grande cheminée, ce qui n'est pas courant, elle était un peu pionnière. Et à mi-hauteur de cette grande cheminée, en 1856, la famille Roussin, qui est propriétaire à l'époque, a fait installer une Marianne. Et évidemment, installer une Marianne en 1856, c'est un défi, c'est presque une insulte au pouvoir impérial de Napoléon III.
C'est une statue ?
Oui, c'est une petite Marianne. Et évidemment, cette statue n'a pas été installée au hasard. Nous nous trouvons dans un pays où la culture majoritaire est protestante, je parle de Dieulefi et Poët-Laval, et où elle est très puissante dans le pays voisin, le pays de Bordeaux, dont je vais dire quelques mots. En tout cas, cette mémoire du 2 décembre 1851 est très forte, et elle est très forte également dans une autre commune et autour d'un autre lieu. Cette commune, c'est la commune de Cray, dans la vallée de la Drôme, Et le lieu symbolique, c'est la tour de Craie, un donjon reconstitué, hein, c'est pas le donjon d'origine. L'ensemble médiéval a été restauré et en partie dénaturé, mais ce donjon s'élève, on le voit très bien lorsqu'on s'approche de Craie, on le voit de loin. Et il est au 19e siècle, il est au milieu du 19e siècle, la prison de la Drôme. En effet, nous sommes à une époque où l'on passe d'un âge à l'autre pour les prisons. Depuis la Révolution française, existe un code pénal et un code civil différent de l'Ancien Régime. L'enfermement est également différent et l'on réfléchit à de nouvelles formes de prison. En particulier, alors là c'est le Lyonnais qui vous parle, en particulier on expérimente des modèles de prison panoptique, c'est-à-dire des prisons qui sont surveillées depuis un lieu central qui permet de surveiller la vie des détenus dans plusieurs ailes qui sont disposées en étoile à partir d'un lieu central. Telle était l'architecture des deux grandes prisons, Saint-Paul et Saint-Joseph à Lyon, près de la gare de Perrache, qui n'ont pas subsisté aujourd'hui, sauf très partiellement pour l'une, mais qui, jusqu'à une date récente, jusqu'au début du XXIe siècle, étaient les deux grandes prisons lyonnaises, modèle panoptique.
Vous venez d'écouter une émission réalisée par Radio D'ici.
L'écho.
Des conférences.
L'écho des conférences. L'émission qui vous permet d'assister aux conférences des rencontres Concertina, comme si vous y étiez.